Vengeance ou protection ? Première partie par Maria Fontaine. Nous vivons dans des temps difficiles où les hommes méchants et les charlatans s'enfoncent de plus en plus dans le mal, comme l'avait prédit la Bible. Quand on voit la souffrance et le mal que de telles personnes causent, on peut être tenté d'éprouver de la colère et de prier qu'elles soient jugées et punies. On appelle généralement ces prières de jugement des prières imprécatoires. Le dictionnaire définit l'imprécation comme une prière destinée à attirer sur quelqu'un la vengeance, la punition divine, une malédiction. On associe le plus souvent les prières imprécatoires à des versets de certains psaumes du roi David, bien que d'autres psaumes contiennent également des imprécations. Il est important de faire la distinction entre ces prières de jugement et une prière adressée au Seigneur pour lui demander d'intervenir, afin de protéger quelqu'un du mal ou pour accomplir le dessein de Dieu. La prière imprécatoire implique qu'une personne juge les autres sur la base de ce qu'elle perçoit de leurs actions et qu'elle demande à Dieu de leur infliger du mal en guise de rétribution. Au contraire, la prière de protection est une prière de délivrance du mal, qui laisse la responsabilité du jugement à Dieu. Dans ce cas, vous demandez à Dieu sa protection. Vous ne demandez pas à Dieu de détruire quelqu'un parce que lui seul connaît chaque détail de la situation. Nous devons nous rappeler que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Bien entendu, c'était également le cas de Paul, anciennement Saul, qui était l'exemple même de quelqu'un que l'Église primitive considérait comme mauvais et méchant. Ils avaient raison, bien sûr. Ses actes étaient mauvais et cruels. Je ne serais pas étonné d'apprendre que beaucoup de ceux qu'il persécutait avaient été tentés de prier pour qu'ils soient détruits. Mais Jésus savait que Paul deviendrait l'un de ses disciples qui aurait le plus de succès. Nous qui sommes chrétiens devrions prier pour que Jésus transforme de la même manière ceux qui nous causent du tort, ce qu'il est le seul à pouvoir faire, à sa façon et au moment qu'il aura choisi. J'ai étudié le sujet des prières imprécatoires il y a plusieurs années, après un terrible événement dont furent victimes des innocents et dont j'ai oublié les détails. Toutefois, le Seigneur m'avait indiqué à l'époque que je devais attendre avant de traiter ce sujet dans un article. Puis, avec le déchaînement de violence et l'époque troublée que nous connaissons dans tant d'endroits du monde, il m'a rappelé ce sujet et m'a indiqué qu'il était important de nous rappeler comment Jésus nous avait enseigné à prier et nous comporter avec les autres dans ce type de situation. J'ai demandé au Seigneur de confirmer si ce que Peter et moi pensions à ce sujet était correct. Voici ce qu'il m'a répondu. J'ai exprimé dans mes propres mots la bonne façon de réagir lorsque vous vous retrouverez face à des gens qui commettent le mal. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. La mort et la résurrection de Jésus ont inauguré une nouvelle ère et une nouvelle alliance. Il a accompli l'ancienne alliance conclue avec Abraham en endossant les péchés du monde et en payant de sa vie pour racheter l'humanité. Puis, en ressuscitant d'entre les morts, il a ouvert la porte de la vie éternelle à tous ceux qui le recevraient. Comme l'expliquait l'apôtre Paul, La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Hébreux chapitre 7, verset 19. À l'époque de la loi mosaïque dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de voie vers le salut, car les gens ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Avec la loi mosaïque, Dieu montrait qu'il nous était impossible d'en faire assez pour nous acquitter du prix du péché. Nous ne pouvions pas être suffisamment bons en nous-mêmes, si bien qu'il ne restait que le jugement et la rétribution du péché. Lorsque nous avons reçu le pardon et la miséricorde de Jésus, le besoin de châtier les gens pour les torts commis à notre encontre a été remplacé par quelque chose de bien plus grand. Son amour nous a offert le moyen de vaincre le mal par le bien. C'est pourquoi il nous a enseigné à prier pour ceux qui nous haïssent et nous font du tort. Ainsi, sa puissance peut se manifester en nous pour contribuer à transformer des vies en mieux. Alors, comment nos prières peuvent-elles exprimer notre désir de vaincre le mal? Serait-ce en priant pour demander à Jésus de venger toutes les injustices? Comment cela manifesterait-il la plus grande de toutes les puissances, celle de l'amour de Jésus pour vous et moi, pour toute l'humanité, qui se manifeste dans son désir d'amener tous les hommes à la repentance pour qu'ils deviennent ses enfants? Le roi David priait parfois sous l'effet d'une violente colère contre ses ennemis, mais il terminait souvent ses prières en louant Dieu pour sa bonté. Il n'avait pas encore le don de Dieu qui lui permettait d'avoir le pardon surnaturel de Jésus, puisque Jésus n'avait pas encore apporté cette réalité ici-bas. Jésus a redonné toute leur importance à la puissance de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Lorsqu'une ville samaritaine les rejeta, lui et ses disciples, Jacques et Jean étaient tellement furieux qu'ils étaient prêts à faire tomber le feu du ciel sur cette ville et ses habitants pour leur donner une bonne leçon. Mais quelle fut la réaction de Jésus? Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Luc, chapitre 9, versets 54 à 56. Je pense à toutes les fois où j'ai eu la même attitude, quand je pensais que Dieu voudrait sûrement faire tomber ses châtiments. Mais au lieu de cela, voici que Jésus dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Jésus dit vrai et il est juste. Il nous a donné une autre façon de voir ces situations. Quelles que soient les fautes commises, même dans les pires situations, la vengeance peut-elle réparer les blessures infligées, les vies perdues, le chagrin, la douleur et la souffrance causées? Pourrait-elle restaurer l'unité, incarner la vérité, la compassion, la miséricorde, le pardon? Pourrait-elle véritablement apporter l'apaisement de l'esprit ou la satisfaction intérieure? Nous ne pouvons pas pleinement comprendre et encore moins juger quelqu'un d'autre avec notre propre compréhension. Il faut prier désespérément pour renoncer à ces sentiments de colère face à l'injustice. Il faut de la foi pour faire confiance à l'amour et à la justice de Jésus au point de savoir qu'il finira par redresser les torts. Nous avons parfois du mal à bien saisir cette vérité dans notre esprit et nous rechignons à l'accepter. Pourquoi souhaiterions-nous du bien aux gens après tout le mal qu'ils ont fait? Nous pensons que nous nous sentirons mieux si nous les faisons souffrir pour nous venger de ce qu'ils ont fait. Mais est-ce vraiment le cas ?